Donc bonsoir, bienvenue pour cette table ronde, donc les mondes gigognes de Philippe K. Dick à Christopher Nolan. Autour de moi pour en discuter ce soir, Simon Pommel, réalisateur d'une dizaine de courts-métrages et pour prendre l'actu la plus brûlante ici, réalisateur de Brand New You, un tout nouveau vous, ou un vous tout neuf, qui donc est en compétition au festival. Je connais nommé Ariel Kirou, directeur associé de la société Moderne Multimédia, rédac chef du site culturemobile.net, et pour reprendre, pareil, l'actu brûlante édiquienne du festival, co-scénariste du documentaire Les Mondes de Philippe K. Dick, projeté ce soir à 21h15, si je ne m'abuse. Pascal Thomas, mathématicien, enseignant. Personne n'est parfait, en effet. Ça me fait toujours bizarre, membre historique du fandom qui est auteur d'innombrables nombres de chroniques, de livres dans différents magazines, ailleurs et autres, Yellow Submarine, Fiction, Locus, Fantasy Review, Galaxy, Bifrost, et dans le fanzine Keep Watching the Sky, qu'il dirige. Olivier Cotte, réalisateur, historien du cinéma d'animation, scénariste de bande dessinée, traducteur, auteur de près d'une trentaine d'ouvrages. Et parmi ses parutions les plus importantes, notons les bandes dessinées Le Futuriste, L'Ultime Défi de Sherlock Holmes et L'Épouvantail aux éditions Casterman. Sans oublier pour le cinéma les Oscars du film d'animation que je recommande à tous aux éditions Erol et la méthode Écrire pour le cinéma et son dernier opus, l'encyclopédie consacrée aux films d'animation, 100 ans de cinéma d'animation aux éditions Duno. Que je ne peux que vous enjoindre à courir, acheter et compulser attentivement. Et à côté de moi, Jake Reynald, qui publie des bandes... Pardon pour l'accent. Jacques Reynald, pardon pour l'accent. Je vais avoir du mal entre vous deux. Qui publie donc des bandes dessinées depuis 1994, notamment dans Fluide Glacial, en commençant par des adaptations de textes classiques, hein, tels que La Bible ou Les Misérables, grossièrement résumés en 2 pages. Et qui démarre ensuite donc une série de courtes chroniques fantastiques, hein, qui ont fait l'objet de 3 albums, Combustion Spontanée, Esprit Frappeur et en 2015, Les Nouveaux Mystères. Donc un panel de choix pour discuter. Excuse-moi, Laurent Kessy, mais non, mais je l'ai déjà présenté aujourd'hui, donc j'oublie toujours. Pardon, qui est auteur. C'est ça, sa carrière de nom invisible. Auteur, chroniqueur, et qui a notamment, pour le sujet qui nous intéresse, traduit la thèse de Kim Stanley Robinson consacrée à Philippe K. Dick, à laquelle il a pu adjoindre sa propre étude de Philippe K. Dick, et qui est en train de préparer une biographie de Philippe Dick en bande dessinée. Et qui a été invisible l'espace d'un instant, j'en suis vraiment navré. Dans un autre univers, c'est ça, on a des perturbations. Donc, les mondes gigognes sont donc des mondes enchassés les uns dans les autres, des mondes qui se cachent les uns les autres et dont l'accès ou la multiplicité reste codée, secrète. Et forcément, nous allons parler de récits dont l'objet est justement cette structure du monde, de monde enchassé. Et j'ai énormément mal à réfléchir avec les spots dans les yeux, je suis désolé. Definitely. Et donc, je vais partir de ma droite, après tout, pour avoir une première approche de ce que sont les mondes gigognes. Et on va partir de Philippe K. Dick.
Ok. Alors, dans l'œuvre de Philippe K. Dick, les mondes gigognes, c'est quoi ? C'est au fond la façon dont un certain nombre de personnages vont se retrouver dans l'esprit d'autres personnages ou vont partager des univers ensemble. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Le premier exemple, c'est une nouvelle qui s'appelle « Le monde qu'elle voulait ». Au début de la nouvelle, on a un personnage qui a l'air de complètement manipuler le monde qui est le sien. Il le choisit, en quelque sorte. Il a une petite amie qui l'embête. Lui, il veut aller dans un club de jazz. Elle veut aller dans un autre type de club un peu plus classieux. Et donc, il y a une sorte de conflit entre les deux. On se rend compte, on a l'impression que c'est lui qui fabrique le monde où elle est. Ou plutôt l'inverse, c'est elle qui veut imposer son monde, voilà, c'est elle qui veut imposer son monde, et à la fin on réalise que c'est lui qui changeait son monde à elle. Donc l'un était dans le rêve de l'autre, ou dans la réalité de l'autre, et c'est le tout premier exemple qu'on connaît chez Philippe K. Dick de cette logique de se retrouver dans l'esprit d'un autre. Alors un peu plus tard, dans un roman qui s'appelle L'œil dans le ciel, qui date de 1957, Il y a une série de personnages qui sont victimes d'un accident nucléaire. Au moment où ça se passe, on ne sait pas que c'est un accident nucléaire. On n'est pas sûr on ne sait pas de quoi il s'agit. Et les personnages qui sont victimes de cet accident, pas forcément le sachant, vont se retrouver dans les esprits les uns des autres, à vivre dans les fantasmes que les uns ont pensé par rapport aux autres. Par exemple, il y a une puritaine, il y a une sorte d'américain machiste, il y a une sorte d'islamiste bizarre qui veut tout mesurer, et ça donne un roman très cocasse où chacun est dans l'esprit d'un autre. Troisième exemple, c'est dans Le Dieu venu du Centaure. On a souvent qualifié cette trouvaille de sorte de prémisse de la réalité virtuelle, mais les personnages qui vivent sur Mars prennent une drogue, qui est le délice ou le caprice, l'un des deux, je ne sais plus exactement, et se retrouvent allongés à vivre ensemble dans le monde de poupées pattes. Mais tous ensemble partagent le même monde. Et puisqu'on a parlé d'Inception, il y a une scène dans Inception où on voit des gens en train de dormir et de partager leurs rêves, quelque part. Et ils sont allongés, ils partagent le même rêve, de la même façon que tous les personnages du Dieu venu du Centaure de Dick, donc qui est un roman de 1964, se retrouvaient à partager un seul et même esprit, soit dans la peau de poupées pattes, la poupée Barbie, soit dans la peau de Ken, de l'homme qui, effectivement, était censé vivre avec elle. Donc voilà plusieurs exemples. Et au fond, finalement, c'est ce que traduit en fait ces mises en scène et qu'on retrouve dans Inception, c'est ça. Voilà, c'est cette obsession de vivre dans des univers créés par d'autres, dans les rêves des autres, et tout ce que cela peut impliquer comme déconvenu. Voilà, pour simplifier, en tout cas, ce premier exemple de la façon dont les mondes gigognes existent dans l'esprit les uns des autres, et ce qui permet justement de poser ces deux questions essentielles de Dick. Qu'est-ce que le réel, si on est dans les univers des autres, et qu'est-ce que l'humain, parce qu'effectivement, c'est bien embêtant parfois d'être dans l'univers des autres.
On peut rajouter un autre exemple, toujours piqué chez Dick, qui est plus artisanal, on va dire, dans Le Temps des Articulés. Regal Gum est un personnage qui joue tous les jours dans le journal au jeu Où est le petit homme vert. Il doit trouver le petit homme vert tous les jours il gagne. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce film Le Truman Show. Le Truman Show est une adaptation non officielle du Temps des Articulés. Regal Gum, en fait, est un personnage qui est doué de précognition et qui, dans le vrai monde, est capable de dire où les missiles que les Martiens nous envoient pour nous attaquer, pour nous anéantir, vont tomber, et donc pour les intercepter. Sauf que Regal Gum, j'ai oublié s'il divorce ou quoi, enfin, il est dépressif.
Il est dépressif.
Il est dépressif et ça marche plus, quoi. Donc, les terriens, enfin, l'armée, crée un faux village, une fausse ville des années 50 pour dorloter Regal Gum, pour le mettre dans un... C'est exactement comme dans Truman Show. Et ils ne lui disent plus « Tu nous aides à contrer les missiles martiens, mais tu joues à où sera le petit homme vert demain, dans le journal, tous les jours. » Voilà, c'est aussi l'idée de Ender's Game. Et donc, Regal Gum vit dans un monde fabriqué par d'autres humains, un monde factice, un monde de simulacre. Il y a aussi ça chez Dick, très important, le faux, le simulacre. Et c'est aussi une réalité enchâssée, mais plus artisanale que celle du Bevatron dans L'œil dans le ciel. Ou voilà. Donc il y a plusieurs aussi. Il utilise tout l'arsenal possible pour nous offrir des mondes dans des mondes, en fait, dans des poupées russes.
Et c'est vrai que c'est un thème qui est absolument fondamental chez Dick. Il a une manière évidemment de le définir, c'est ce qu'il appelle l'écart qu'il y a entre l'idios cosmos, qui serait cette réalité personnelle, et le koinos cosmos, qui serait cette réalité subjective. Et tout au long de sa carrière, il va mettre en scène, comme on l'a évoqué, différentes stratégies pour le faire. Et c'est vrai que quand on prend Le Dieu venu du Centaure, qui est un des exemples les plus qui vient le premier, il y a deux étapes. C'est-à-dire qu'il y a la première drogue, en fait, les colons jouent aux poupées Barbie, donc ils ont une collection complète avec des différents accessoires qu'ils achètent, et la première drogue qu'ils utilisent met tous les hommes dans l'esprit de Ken et toutes les filles dans l'esprit de Barbie. Hein, c'est Perky Pat, hein, c'est pas Ken et Barbie, mais c'est les mêmes. Et l'avantage de la deuxième drogue, ce pourquoi ils la prennent, d'une part, elle est pas plus chère. De deux, elle dure plus longtemps. Jusque-là, c'est complètement réel. La troisième, c'est qu'en fait, ils se retrouvent y a une inversion de la chose. Il y a déjà une disparition de la frontière, simplement physique de la communauté autour des jouets. Ça envahit l'ensemble de la réalité et eux ne sont plus ceux qui se projettent dans un véhicule. Ils deviennent les véhicules de ce dieu venu du centaure.
Voilà. Et c'est effectivement Palmer Eldritch, hein, celui qui est ce dieu venu du centaure.
D'où
et
le nom dans The Strain pour ceux qui se
voilà.
Demandent.
Voilà. Et effectivement, ce qui est intéressant dans ces deux logiques chez Dick, c'est que tant que ça reste, je crois que c'était le délice, dans la traduction française. Voilà, Candy, aussi, voilà. Donc ça reste la première drogue. Les choses sont relativement claires. C'est un peu lourd, mais on vit en fait par procuration dans des univers bien définis, dans lesquels on a mis les jouets qu'il fallait, qu'on a habillé comme il fallait. Alors que dans le deuxième moment, on est dans l'univers malsain d'un personnage. Est-ce que c'est un dieu ou pas? Qui s'appelle Palmer Eldritch. Aussi dans l'univers d'une fille, à un moment donné, en fait, on ne sait pas si c'est une fille ou un homme. Et tout devient confus quelque part. Et au fond, finalement, ces deux dimensions de la virtualité, de vivre dans les univers des autres, sont très très présentes au sein de Dick, ce qui peut être acceptable à un moment donné, qui peut ouvrir l'esprit ou en tout cas occuper les âmes, peut se transformer très vite en une sorte de cauchemar absolument infernal, comme celui qui va suivre à l'arrivée dans le monde du dieu venu du centaure, totalement surréaliste, complètement fou, avec des plantes qui montent, tout devient possible, mais où on perd sa singularité quelque part.
Et
le dieu.
Ouais. Et le dernier modèle, quand même, avant de donner la parole à Olivier et à Simon sur le cinéma, qui va être le plus exploité au cinéma, c'est celui d'Ubik. Ubik, qui est un roman... on est assis sur la scène. Un des plus grands romans du XXe siècle, sans aucun problème. Hein, vu qu'on est là, on a le droit de le dire. Avec cette idée dedans, en fait, qu'on a une réalité qui se délite de plein de manières différentes, mais surtout c'est au niveau du retournement final que ça va être extrêmement productif au cinéma. Cette idée qu'en fait que tous les personnages en fait sont dans une réalité commune, mais ils sont tous en fait en semi-vie. Et le personnage en fait dont ils essayent de sauver la vie pour une bonne partie du roman est en fait le seul personnage qui a survécu, qui n'est pas en semi-vie, avec ce retournement qui est je suis vivant et vous êtes mort, dans lequel vous pourrez connaître à peu près toute la carrière d'Amenabar ou autre. Et justement, je me retourne vers Olivier puis Simon sur la manière dont cette structure va être rendue au cinéma. Déjà, il va y avoir une première question, peut-être un peu théorique, mais toujours pratique, de comment on rend ça déjà au cinéma, quelles vont être... J'ai déjà posé ma question, en fait, elle est assez simple. Hein, quelle structure de roman, de quelle manière on réadapte cette structure et ce jeu de monde enchâssé au cinéma?
Alors, dans le cinéma de prise de vue réelle, avec les structures de scénario plus le montage, qui est extrêmement important, on arrive justement à passer d'un monde à l'autre sans rupture, paradoxalement, par rapport au montage, ce qui fait qu'on peut mêler les deux assez facilement. Concernant l'animation, puisque bon, je suis un peu plus spécialiste, on a très souvent un problème avec l'animation, c'est que l'animation finalement est peu réaliste généralement, dans le sens où on a très rapidement voulu mettre plutôt des animaux parlants, et à partir du moment où on n'a pas un rapport direct avec cette réalité, on peut encore plus difficilement trouver un décalage, enfin accepter un décalage de cette même réalité. Là où ça fonctionne parfaitement, par contre, c'est quand l'animation devient beaucoup plus réaliste. Et alors là, le cinéma japonais, notamment depuis quelques années, a développé ce type de thème, de rêve. Alors un des exemples les plus flagrants, à mon avis, ces dernières années, c'est Paprika de Satoshi Kon, où dans lequel on a réellement un délire de rêves qui se confond complètement avec la réalité. Mais pourquoi? Parce que ben, les personnages sont humains, il y a une volonté de réalisme, et d'autre part, la mise en scène elle-même, ainsi que le son, le mixage, sont finalement extrêmement proches, voire calqués sur ceux de prise de vue réelle.
For me, Philip K. Dick is kaleidoscopic, and I think that's been really well described by other members of the panel.
Donc pour moi, en tant que cinéaste, en fait, je pense que l'œuvre de Dick, c'est une sorte de kaleidoscope, et ça a été très bien exprimé par les autres membres du panel.
I made a little list for myself of just, you know, parallel alternate histories, drugs like Candy and Choosed, religions like Mercerism in Blade Runner. One person's psychotic crisis being a nuclear disaster in Dr. Blood Money.
Donc justement, je me suis fait la liste là tout à l'heure de différents éléments en fait qui sont récurrents, enfin qui exprime cette idée. Il y a effectivement le Tuesday des Porky Pat, Candy contre Tuesday. Il y a cette idée de la psychose d'une personne devient une guerre nucléaire pour les autres. Tous ces éléments-là.
I think one of the things I see when I look at filmmakers encountering that reality is how to bring enough linearity and friction and resistance into the relationship between those different worlds.
Et ce que je vois chez les cinéastes, justement, c'est la manière dont il faut emmener une certaine friction, une certaine perméabilité, non-perméabilité entre ces différents mondes.
And drama progresses by conflict, and that implies a certain stasis, a certain materiality, a certain heaviness in the world.
Et donc, dans la dramaturgie, il faut un élément qui va faire avancer le narratif, donc le conflit, et c'est ça qui va jouer avec le statu quo et le mouvement.
So I think one of the interesting things when one looks at the Philip K. Dick inspired films is to look at the hinge between the realities.
Et je pense que ce qui est très important quand on regarde des films qui ont été inspirés de l'œuvre de Philip K. Dick, c'est de voir cette charnière entre les deux mondes.
Because it's in the hinges, I think, that the filmmakers hide the meanings of the films, hide the their particular reading, and in a way, necessarily kind of narrowing of Dick's world.
Et donc, c'est justement dans cette charnière que les cinéastes vont cacher leur lecture, leur interprétation du monde de Philip K. Dick. Ils vont justement mettre là-dedans, dans cette charnière, la quintessence de leur point de vue là-dessus.
And I think that's very interesting in Inception. You know, in the end, Inception circles around a kind of a secret, a dishonesty, something that has to be discovered at the very deepest level.
Et Inception, justement, c'est ça. À la fin, il y a ce secret, il y a cet élément malhonnête, justement quelque chose à découvrir.
And that's like some sort of magic humanist being hidden in a sort of Philip K. Dick magic world.
Et c'est donc cette espèce d'être humain humaniste, enfin c'est cet humaniste magique qui est caché dans le monde de magie de Philip K. Dick.
And I think maybe we could talk about some other films like 12 Monkeys and a number of other films in the same kind of way. How does that hinge work?
Et il y a d'autres films, par exemple L'Armée des Douze Singes, on peut justement dire cette charnière là, comment ça fonctionne?
Je me faisais la réflexion en écoutant Simon parler qu'il y a très peu de films véritablement adaptés de l'œuvre de Philip K. Dick qui utilisent ce principe de réalité. Il y a peut-être Total Recall, mais c'est peut-être le seul. On retrouve plus ce principe dans des films inspirés de Philip K. Dick. Tu parlais d'Amenabar, Ouvre les yeux, c'est ça. Inception aussi. Mais il n'y a pas eu vraiment d'adaptation, à part Total Recall, peut-être
On n'en a pas parlé vraiment quand on a fait l'héritage de Blade Runner tout à l'heure, mais la chose que Blade Runner vraiment amène, c'est ce creusement. Alors, à partir du moment où on a la version, évidemment, avec le rêve de la licorne et la licorne. Parce que un rêve, une séquence, est un monde enchâssé, de toute façon. Et la plupart des récits qui vont être adaptés de Dick ou les autres qui en sont inspirés, le sens du film repose sur l'interprétation du lien qu'il y a entre le niveau de l'intrigue, ce qu'on appellerait le niveau actuel en logique, le niveau des actes, et le niveau enchâssé. Pour Blade Runner, c'est exactement ce qui se passe. Si on enlève le rêve de la licorne, comme dans la version des producteurs originales, on n'a aucun moyen de comprendre pourquoi la réaction de Deckard à la fin quand il voit la licorne posée par son collègue. Dès qu'on réintroduit la scène, là, on peut comprendre qu'en voyant la licorne, il comprend que son collègue connaît un rêve intime qu'il n'a jamais raconté à personne, de la même manière que lui raconte à Rachel un peu plus tôt le rêve de l'araignée en couleur quand elle était jeune qu'elle n'avait raconté à personne. Donc on comprend que ce qu'on a vu n'est pas un rêve. Le montage nous montre que c'est un rêve, parce qu'on voit Deckard qui s'endort sur un piano au milieu de plein de photos différentes. Sa mémoire est artificielle et composite comme un androïde, ce qui nous renvoie directement à nous, évidemment. Et ce n'est pas un rêve, c'est un souvenir synthétique que les autres connaissent. Total Recall va plus marché effectivement d'une autre manière, mais je laisse Olivier.
Oui, mais c'est vrai que dans les adaptations de Dick, en fait, il y en a très peu qui reprennent cette idée de double réalité, on va appeler ça comme ça. Minority Report est un très bon film, par exemple, mais finalement, c'est un thriller assez classique, si on, d'une certaine manière.
À sa décharge, il n'y a pas de double réalité.
Absolument.
Il y en a un, mais qui n'est pas très bon, c'est l'agence. Parce que dans l'agence, en fait, on a le monde qui a été arrêté par Dieu avec les agents, en quelque sorte. Alors, je trouve le film moins réussi que la nouvelle de départ. Mais là, on est réellement dans des mondes enchâssés, puisqu'il y a finalement deux mondes. Il y a le monde arrêté, qui est en train d'être transformé par les agents de Dieu. Et il y a le monde réel, qui se joue et joue avec l'autre. Donc ça, c'est un exemple. Une nouvelle fois, c'est pas un grand film, donc on a tendance à l'oublier. Mais là, en l'occurrence, c'est un exemple.
Mais ça, c'est à mon avis, c'est parce que en fait, c'est quelque chose d'extrêmement complexe à mettre en scène, et surtout, les producteurs sont pas toujours très convaincus que le public va suivre dans la en termes de complexité, de lecture de la complexité de la double réalité. Le fait que l'on ait effectivement remonté Blade Runner est pas innocent. C'est que en 82, on était absolument persuadé que le public ne suivrait pas. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Je crois que c'est beaucoup plus accepté pour un certain nombre de raisons. D'abord, la notion de virtualité est maintenant partout, finalement, que ce soit avec Internet, les jeux ou autres. Donc on sait que ce que nous offrent nos sens ne peut tout à fait correspondre à une certaine forme de réalité pour nous. Typiquement, par exemple, l'immersion dans le jeu vidéo. Et puis, je pense qu'il y a aussi un autre facteur, c'est qu'on est tout à fait encouragé par le spectacle du présent et la peur du futur à aller vers des univers qui sont factices tout en le sachant ou même tout en se faisant croire qu'on l'ignore. Et du coup, ça permet de comprendre que des univers puissent intégrer ces deux dimensions différentes de réalité tangible et de réalité sensible, même si factice.
Et c'est vrai qu'il y a le modèle qui s'est le plus développé en termes de structure de film pour les adaptations de Dick, où les films s'en inspirent. En général, c'est souvent une dimension du rêve, déjà en premier lieu, avec cette idée du rêve à déroulement progressif. On a ça dans Paycheck, on a ça dans 12 Monkeys, avec ce rêve qui va se révéler au fur et à mesure et qui va se synchroniser avec le niveau actuel. Dans Paycheck, c'est exactement ça. C'est une vision de la fin du film. Et au fur et à mesure qu'on avance, le rêve est de plus en plus long, de plus en plus précis, jusqu'à ce que la même scène se déroule, mais là, au niveau actuel, ce qui nous donne en fait la solution. L'Armée des 12 singes fonctionne exactement comme ça aussi. Là où par contre on commence à avoir de l'enchâssement, c'est vrai qu'il faut attendre des films un peu plus... Il faut attendre Inception pour avoir vraiment des niveaux d'enchâssement. Ce qu'on retrouve par contre dans ce film-là, c'est cette idée de synchronisation et de jeu sur le temps.
I wonder if... I just wanted to say that I think one of the things going on and even in Inception, I think it's true that one of the things that that filmmakers tend to find they cannot sacrifice... is motivation, and the feeling of the unmotivated mystery of nested worlds in Dick is often somehow slightly rationalized in movies, I think.
Je crois que ce qu'on trouve dans le cinéma, et notamment dans Inception et autres choses, c'est cette idée de mondes qui sont imbriqués, qui sont gigognes comme ça, et mais qui doit être montré dans un film. On doit le voir, justement. Et motiver, la motivation, justement, là-dessus. Oui. Voilà, c'est ça.
I was going to say that I think as a kind of an addenda to that, in some ways I might suggest... thank you. I might say that I think Lost Highway, in some ways, is the most perfect Philip K. Dick-inspired film, in that its feeling of the horror of American suburbia combined with its totally motiveless nesting of worlds has something very Philip K. Dick about it, I think.
Et je pense que l'exemple le plus parfait, c'est Lost Highway, où il y a effectivement cette banlieue idéalisée, et puis...
C'est le cauchemar
qui est là, et voilà, et la non motivation qu'on trouve de l'autre côté avec ces mondes imbriqués.
Mais ce que je voudrais dire, c'est que Philip K. Dick, peut-être sur le tard, a donné une motivation à ces questions de monde successif, et c'est une motivation hérétique au sens propre, c'est-à-dire dualiste, c'est de la religion. C'est l'idée que le monde matériel que nous percevons, le monde dans lequel nous vivons, est un monde mauvais, hein, parce que ça, tout le monde peut être d'accord que le monde est mauvais, et que donc la vraie réalité qu'il faut atteindre, c'est celle de Dieu, qui est bon, et qui est en dehors de notre monde. Et c'est un petit peu ce qu'il avait essayé d'expliquer à un auditoire pour le moins incrédule, et j'en faisais partie au Festival de Metz en 77, dans sa célèbre conférence « If you think this world is bad, you should see some of the others ». Et si vous pensez que ce monde est mauvais, vous devriez voir certains des autres, hein, je crois que c'est ça, le titre, dans lequel il expliquait ses visions religieuses très sincères, en fait, et qui ont ensuite donné la fameuse, ce qu'on appelle un peu... la trilogie divine, en tout cas, en particulier le livre qui s'appelle Siva en français et Valis en anglais. Hein, voilà. Mais il y avait déjà des traces de ça dans cet intérêt pour ce type de religion, dans un de ses premiers romans qui était Les Pantins Cosmiques, je crois, en français, hein, où on voit Mazda et je ne sais plus, enfin les divinités du panthéon dualiste perse antique qui utilisent les humains comme des pions. Ça, c'est rigolo, mais il l'a développé plus tard.
Et quand on parlait justement de la manipulation du temps ou de la synchronisation, il y a derrière ces deux types de réalités, il y a une conception qui est chez Dick depuis son tout premier roman, bien avant qu'il fasse de la science-fiction, qui est l'opposition et en même temps la coprésence d'un temps linéaire et d'un temps cyclique. Et en fait, de manière assez, chez lui tout à fait avoué, hein, il récupère en fait le paradoxe et l'aporie du temps de saint Augustin, hein, un des pères de l'Église qu'il connaissait extrêmement bien et qui justement s'interrogeait sur le fait que notre histoire, à l'image de notre vie en tant qu'individu, s'écoule d'un début à une fin de manière linéaire, mais que par contre, dans un cadre d'une religion, et de la religion chrétienne, le fait est qu'on a un cycle, c'est-à-dire qu'on attend le retour en fait du Messie, et donc que notre expérience linéaire serait en fait, et qui est une perception en fait partielle de la réalité, est imbriquée dans un temps cyclique qui lui est la réalité métaphysique et essentielle.
En même temps, il a multiplié les hypothèses, et il parle aussi du temps orthogonal quelque part, qui fait que lui-même va se retrouver lui-même. Son terme exact, c'est le temps orthogonal. Tu vois, c'est marrant parce qu'il voilà, mais c'est lié au temps cyclique quelque part, et qui lui permet effectivement, qui permet à des réalités de se croiser. Parce que ça, c'est un autre enchâssement quelque part qu'il y a chez Dick, c'est qu'en fait, c'est le temps permet à des réalités divergentes de se retrouver à des moments bien précis, ce qui fait que un Dick d'une époque va se retrouver avec un Dick d'une autre époque, et donc anticiper très bizarrement certains événements. Et effectivement, à la conférence de Metz, bon, il partait de sa fameux épisode de 74 où il aurait été habité pendant à peu près une année, je crois, par un Romain de l'année 73, hein, donc après Jésus-Christ, donc de l'Empire romain, qui l'aurait habité, qui l'aurait éveillé, qui lui aurait en quelque sorte révélé la réalité derrière la réalité. Voilà.
Ouais, nous ne sommes pas en Californie en 1974, nous sommes à Rome en 1973. Voilà. Ça fait 36 minutes que nous parlons et nous n'avons pas évoqué Matrix, et je suis choqué que nous n'ayons pas évoqué Matrix. Et parce que univers enchâssé, double univers enchâssé possiblement, influence dickienne revendiquée, voilà.
Voilà, c'est fait. Et tu peux creuser la question si tu veux.
Non, mais je pense que c'est un film important sur ce sujet. Et
ce qui est intéressant, c'est que la réalité fausse est celle de l'ordinateur. Et qu'aujourd'hui, on est dans un monde où les réalités fabriquées artificiellement n'ont jamais été aussi nombreuses, les réalités visuelles. Ou même, à la limite, demain, on va pouvoir agir avec les casques de réalité virtuelle ou d'autres. Sans parler de la façon dont des jeux vidéo comme celui qu'on a fait Californium avec autour de Philip K. Dick, les mondes s'embriquent les uns dans les autres au travers de mental, justement, en fait, hein. Les mondes des jeux vidéo sont des mondes mentaux qui se concrétisent quelque part, et ça n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui. Et Matrix finalement annonce ça, puisque c'est effectivement un computer world quelque part qui a remplacé le monde réel via les machines.
Alors, ceci dit, alors pour parler de Matrix, il y a chez les Wachowski très régulièrement de nombreuses références religieuses. Alors, dans Matrix, déjà, bon, il y a quand même la Trinité, avec d'ailleurs l'une qui s'appelle Trinity. Tout n'est jamais question que de, d'illusion. D'ailleurs, à un moment, il y a un môme qui tord une cuillère en disant que la cuillère n'existe pas, ce qui est particulièrement proche de la philosophie d'Extrême-Orient. Cette idée de... d'illusion, on l'a clairement dans la plupart des récits et des adaptations, puisque finalement, tout est une question de perception. En fait, je ne sais plus très bien où je voulais dire. C'est vraiment cette idée de... finalement, oui, ça y est, ça revient. Dans les années 60-70, il y a eu quand même un attrait de l'Occident vers les philosophies orientales, et que ça, obligatoirement, ça a influencé un certain nombre d'auteurs qui se sont découverts tout à coup qui ont vu une ouverture et qui se sont quelquefois découvert même une passion pour les philosophies indiennes et notamment chinoises, japonaises. Et Dick n'y a pas échappé non plus. Ce thème de l'illusion, savoir que ce que nous donnent nos sens, même si c'était déjà utilisé dans la philosophie, développé dans les philosophies occidentales, je pense notamment par Descartes ou les sceptiques ou autres, a repris quand même une certaine force et a constitué du coup une des grandes bases du corpus dickien.
À propos de Matrix, moi, un des trucs que je trouvais le plus fascinant peut-être et qui montre que cette thématique des mondes enchâssés, tout l'imaginaire dickien est vraiment entré dans la culture au sens large, c'est qu'après le premier ou le deuxième film, je ne sais plus, tous les forums, tout Internet spéculait sur la nature de Neo et de ses amis, et beaucoup de gens étaient persuadés que c'était eux les robots en fait, et que... On cherchait à enchasser encore, le spectateur cherchait à enchasser le monde. Et je pense que nos structures mentales, maintenant, elles ont été modifiées depuis l'avènement de la réalité virtuelle. On est entouré de mondes qui s'emboîtent nous-mêmes. Alors, je ne sais pas si avec la religion, avant, il y avait quelque chose comme ça. Je ne crois pas. Et on est de plus en plus fasciné et travaillé par cette idée que voilà, on peut rentrer dans d'autres mondes. La théorie des univers parallèles aussi est de plus en plus répandue, et donc je sais pas, c'est un phénomène qui paraît intéressant.
Non, je réfléchissais à ce que tu disais, mais les religions ont quand même souvent postulé des paradis qui coexistent à notre univers, et ça fournit un peu le modèle. Quand tu regardes les œuvres inspirées par Philip Dick qui ont été produites par la science-fiction française dans les années 70-80, beaucoup de ces mondes artificiels, c'est un peu la mort ou le purgatoire ou des images de ça. Parfois très explicitement, quand Michel Jury explique qu'on peut faire la chronolyse par la douleur et que les gens qui étaient brûlés par l'Inquisition vivaient une éternité subjective dans les quelques secondes où ils décédaient sur le bûcher, tu vois, des choses comme ça. Là, c'était plutôt un enfer qu'un paradis, mais ensuite, ça se transforme par la virtualité. Je crois que quand même, vous l'avez déjà dit, c'est la disponibilité de simulations informatiques qui a changé l'image que nous avons de ce que c'est qu'un univers secondaire virtuel, imaginaire. Chez Philip Dick, clairement, le procédé, c'était plutôt les drogues, c'était la chimie. On est passé de la chimie à l'informatique. Et quand tu regardes Greg Egan, alors lui, il rend ça explicite. Il essaie de t'expliquer comment un substrat matériel va calculer un autre univers qui reste entièrement virtuel, mais qui est la chose importante, et pas le substrat que tu vois lui-même. C'est...
Mais l'idée que nous soyons nous-mêmes dans une simulation, dans une réalité virtuelle, n'est plus aussi folle qu'il y a 20-30 ans, j'ai l'impression. Enfin, on s'habitue à ces... à ces structures mentales.
Alors, je suis un peu candide ici sur ce thème. Je suis très loin d'avoir la culture des mondes dickiens que vous évoquez. Je voudrais revenir à quelque chose à propos d'Inception qui, moi, m'a un peu On parle beaucoup de la fin d'Inception qui serait difficile à comprendre. Moi, c'est le début. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le film parce qu'on parlait tout à l'heure de la question de la charnière, c'est-à-dire du passage d'un monde enchâssé à un autre. J'ai trouvé le concept du rêve partagé facile sur le plan narratif. Alors, je ne sais pas, il faudrait le revoir. Je l'ai vu en VO, mais je ne me souviens pas parce que je lisais les sous-titres. Est-ce que le mot « dream » est employé dans le texte original ? Je trouve que c'est un peu audacieux, voire même, pour moi, c'était un petit peu révoltant, mais peut-être parce que j'ai un certain nombre d'années de psychanalyse. Mais l'idée qu'on puisse rêver à plusieurs et que donc on balaye totalement la notion de l'intimité totale que constitue le rêve et comme objet d'analyse, j'ai trouvé que c'était un procédé narratif un peu déplacé. Alors que ce qu'ils vivent réellement, c'est pas un rêve collectif, c'est une expérience de shoot en commun. C'est plus, ça s'apparente plus pour moi à une expérience liée aux drogues qu'à une expérience du rêve. Alors il y a l'irruption de l'ex-femme décédée du personnage de Leonardo DiCaprio qui vient nous rappeler que le rêve est le fruit des fantasmes et du passé de chacun. Mais j'ai trouvé que c'était trop léger, c'est-à-dire que pourquoi à ce moment-là les fantasmes et les névroses de chacun des autres personnages n'interviennent pas ? Bon, ça rendrait l'intrigue encore plus compliquée, elle est déjà assez difficile à suivre.
Mais en même temps, dans Inception, la clé c'est l'intrusion quelque part, hein. C'est-à-dire qu'il y a l'architecte qui va architecturer en quelque sorte le monde, le rêve, et on ne peut pas comprendre le film sans cette logique-là. Après, la grosse différence qu'il y a entre un film et un roman, et en particulier le roman de Philippe K. Dick, c'est que Philippe K. Dick ne dit jamais la clé. On ne sait pas si c'est un rêve ou si c'est autre chose. On est dans des univers, les choses se passent mentalement, quelque part, sans qu'il n'y ait aucune clé donnée. On reste dans la métaphore, quelque part. Et on peut autant le lire comme des intrusions dans des rêves que comme une métaphore de notre réalité à nous, ou même sans les technologies. On est sans cesse influencé et à la limite gouverné, parfois, par la pensée d'autres, et pas forcément en le réalisant. Oui. Et c'est pourquoi, en fait, là, la puissance de Dick et pourquoi ça reste fort, c'est qu'il reste toujours dans cette logique de l'imaginaire, sans donner la clé, ce qui fait que la clé peut changer. Le réel auquel on va pouvoir appliquer ces mondes enchâssés, eh bien, va se transformer en permanence. Et au fond, que ce soit par le nucléaire, par l'informatique, par la drogue ou par je ne sais quoi d'autre, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est les questions que cela pose en nous, quelque part, et la façon dont, en le lisant, on va pouvoir mieux voir, mieux comprendre, mieux réfléchir, et avoir du plaisir, donc, mieux réfléchir à ce monde qui est le nôtre, et à ces imbrications de réalité qu'on ne maîtrise pas toujours. Ouais. Et là, c'est la grande différence par rapport à Inception, où, effectivement, pour rentrer dedans, il faut presque oublier qu'il s'agit de rêve. C'est de l'intrusion dans l'esprit de quelqu'un d'autre.
Ouais. Mais est-ce que ça soulève pas une question intéressante, c'est-à-dire est-ce que la littérature posséderait pas au fond toujours plus de moyens que le cinéma pour nous introduire des notions qui sont impossibles à concevoir de façon visuelle
et inversement
ou le contraire. Alors,
en même temps, tout à l'heure je parlais de la plus facile acceptation aujourd'hui de la virtualité et du rêve qui se mélange avec le monde que l'on pense réel. C'est à mon tour donc d'être choqué. Il y a un film dont on n'a pas parlé, c'est Existence de Cronenberg, qui lui est vraiment tellement puissant en termes justement de battage de cartes qu'à la fin, on est tout autant que les personnages du film perdu, on ne sait plus du tout si on est dans le monde entre guillemets réel, si on est encore dans le jeu. On est dans et pendant tout le film, finalement, on se fait mener en bateau, mais on n'est même pas sûr en fait d'être mené en bateau. C'est ça qui est assez extraordinaire. Je trouve que c'est un des films qui est le plus intelligent et les plus puissants que l'on ait fait sur la réalité virtuelle et la. Bah finalement, au bout d'un moment, notre manque de capacité à interpréter ce qui nous vient de nos sens, parce que arrivé à un moment, mais ça c'est le génie de la mise en scène de Cronenberg, on se retrouve avec des scènes qui sont finalement, quand on y repense après coup, complètement improbables. Quand il se refabrique une arme à partir de squelettes dont ils sucent avec avidité les morceaux de chair encore collés dessus. Bon, alors il y a un côté toujours le côté très organique de Cronenberg qui revient, mais c'est totalement improbable. Mais on l'accepte parce qu'en fait, on sait qu'on est aussi dans le cadre d'une fiction qui est celle de la cinématographie projetée sur écran. Mais on oublie complètement que c'est en fait non pas seulement le spectacle lui-même, mais c'est l'enjeu, c'est le thème même du film. Et c'est là où on se fait avoir.
Oui, juste deux points, juste pour aller pour acquiescer. Le premier, c'est qu'il y a une référence claire et nette au sein d'Existence, voulu par Cronenberg lui-même, qui est qu'il y a sur un paquet de chips, ou un paquet en fait qui est posé quelque part, il y a écrit Poupée Pâte. C'est-à-dire que la marque de ce paquet s'appelle Poupée Pâte. C'est-à-dire qu'il fait lui-même référence à cette logique de la poupée pâte du dieu venu du centaure, hein, donc au sein du film. Et lui-même, dans les interviews, il dit, oui, évidemment, c'est un clin d'œil parce que j'ai été influencé par Philip K. Dick pour Existence. Je dirais, c'est le premier point. Et le deuxième point, ce qui m'a toujours amusé, c'est que le pod, donc la console vivante, ben on est très proche de l'iPod, hein, et que au fond finalement c'est la métaphore effectivement de cette fusion-confusion du réel et de l'irréel, de ce nouveau monde numérique et bien évidemment des jeux vidéo, parce que la clé majeure d'entrer dans d'autres réels fabriqués par d'autres aujourd'hui avec une grande marge de manœuvre et de vie, ce sont les jeux vidéo, et ça c'est absolument à mon avis immense. Et
je pense qu'on vient d'évoquer deux choses qui sont assez constantes dans les récits adaptés de Dick au cinéma ou autre. Il y a un premier côté qui est un côté structurel, qui est que les films sont souvent... il y a souvent une ellipse initiale. C'est-à-dire que le film commence et qu'il y a une scène qu'on ne va pas nous montrer avant. Dans Existence, c'est la mise en place des casques virtuels dans la réunion qu'on ne découvre qu'à la fin. On découvre que les potes sont fantasmés. Et l'autre chose, il y en a trois en fait. Il va y avoir un jeu aussi sur la linéarité ou pas. C'est Barthes qui disait que la suspension de l'incrédulité, quand on lit un récit, volontairement, on fait une erreur logique de confusion entre consécution et conséquence. Quand on lit une histoire, ce qui arrive juste après un autre événement, ça arrive à cause de cet événement-là. C'est absolument illogique, mais c'est quelque chose qu'on admet dans un récit. Et ces récits-là, notamment Inception pour le début, mais Total Recall bien sûr, le font en... Il y a dans Total Recall cette phrase qui est très rarement qui est « Mais non, elle est vraie, j'en ai rêvé avant de venir chez Recall. » Et on parle d'un... quelque chose de tout à fait cyclique. Et justement, sur Existence et sur le ton, ça s'accompagne chez Dick aussi, mais beaucoup dans le cinéma, souvent d'un jeu sur le genre et les attentes du spectateur. Dans Total Recall, dans la même scène, ce qui est la scène nodale du film, un psychiatre de Sherry Cole est implanté dans l'esprit d'Arnold Schwarzenegger et demande au personnage, mais autant qu'au spectateur, en disant « Mais qu'est-ce qui est une connerie, Monsieur Quaid ?» que vous soyez réellement un agent secret invincible victime d'une conspiration interplanétaire pour le faire passer pour un simple ouvrier de chantier, ou que vous ayez eu un accident lié à un violent accès de trauma neurochimique et que vous soyez en train de vivre une schizophrénie. Et ensuite, il lui détaille le film. Il lui dit, mais vous avez bien vu, vous avez commandé ça, 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 et c'est là qu'il évoque la fille. Il lui démontre au spectateur et au personnage que non. Vous êtes un ouvrier de chantier. Et là où c'est génial, parce que c'est Verhoeven, et qu'on oublie que Verhoeven est avant tout un auteur d'avant-garde qui vient des Pays-Bas et qui, dans tous ses premiers films hollywoodiens, va tirer à boulet rouge, sans le dire, hein, sur les codes hollywoodiens, c'est que Verhoeven sait très bien que pour son public américain, Schwarzenegger est beaucoup plus crédible en l'agent secret international victime d'une conspiration interplanétaire qui va sauver le monde, et beaucoup moins en ouvrier de chantier. Et pourtant, il a quand même, comme femme, il a quand même Sharon Stone. Mais il préfère quand même la brune. Mais il n'est pas comme nous, c'est Governator quand même. Est-ce que je crois que le public existe? En fait, je ne sais pas, ma cornée a brûlé, moi. Je ne sais pas du tout. Là, je vis un truc très Matrix, c'est-à-dire que je commence à voir la vérité au fur et à mesure que je vois de moins en moins de manière oculaire.
Les rockstars demandent, êtes-vous là ce soir?
Êtes-vous là ce soir? Non.
As we're talking, I wonder whether that one of the differences I hear coming out maybe is that a lot of the movies we are talking about are in a way kind of Russian dolls, so that there is a framing reality and then nested within it are many other realities.
Donc, au fur et à mesure qu'on parle, là, je vois que les films dont on parle sont en effet des poupées russes où il y a une réalité dans une réalité, etc. Avec toujours à chaque fois ce cadre autour.
But I think the difference in Philip K. Dick novels is that the Russian dollar is reversible, so that actually you don't know what the grounding reality is. At any moment, the smallest dollar at the very center may turn, suddenly the whole thing inverts, and that becomes the framing reality. So there is no hierarchy between the realities.
Oui, ce qui est intéressant dans les romans de Philip K. Dick, c'est que là, avec ces poupées russes, il n'y a plus de référence de base. Donc la plus petite qui se trouve à l'intérieur, ça peut changer totalement. Et ça va devenir la référence pour les autres réalités.
And I think as a filmmaker, one thing I notice of the different films we're talking about, that some of the really big movies like Inception that we're talking about, you know, that's a certain transaction with the audience. In the end, you do have a kind of a consoling ending. Reality sort of reasserts itself in some way.
Et je vois en tant que cinéaste, avec les films dont on parle, les grands films comme Inception, par exemple, la fin. Effectivement, c'est une sorte de réconciliation avec la réalité telle qu'on pourrait la connaître.
And I think maybe the two films we've mentioned, which you know refuse that, which are Existence and Lost Highway, are in a way sort of broadly speaking more independent films. There's a way in which they can afford to leave the viewer with some very profound doubts about which level is real.
Oui, et deux autres films dont on a parlé, donc Existence et Lost Highway, ce sont des films qui refusent cette fin et qui peuvent se permettre de refuser cette fin parce que ce sont des films beaucoup plus indépendants où il y a un autre contrat avec l'audience.
I was going to say one of the fantastic things about reading Dick is I think he himself always proclaimed himself as a kind of outsider writer and that he was writing in an area where he was not respectable, and the space he was writing in meant all bets were off. You can't expect a safe transaction with him when you start reading.
Et ce qui est très intéressant quand on lit Philip Dick, c'est que effectivement lui, il se décrivait comme étant quelqu'un d'ailleurs, quelqu'un de l'extérieur. Il ne faisait pas partie du groupe, et donc ça veut dire qu'on ne peut compter sur rien. Et tout peut arriver, il n'y a pas ce contrat initial qui dit que voilà, je vais suivre tel ou tel chemin pour vous mener à un certain endroit.
And it's nice when cinema can aspire to that too, that level of daring.
Et si le cinéma peut espérer recréer ce même genre d'audace, c'est vraiment quelque chose de bien.
Non, ben, je voulais juste te dire que c'est à peu près ce qu'il a dit, que les romans de Dick aussi ne finissent pas sur une réalité donnée. Ses meilleurs romans finissent toujours sur le doute, et que les meilleures adaptations, sans doute, de Dick sont ces romans, ces films qui aussi nous donnent pas une vérité établie à la fin. Et donc, sans doute, les meilleures adaptations de Dick, ce ne sont pas des vraies adaptations de Dick.
Et c'est pour ça qu'il est complètement débile de faire un Blade Runner 2. Faut le dire quand même à un moment. Faut vraiment rien avoir compris au film pour vouloir faire un 2. Enfin bon, hein. Par contre, avant qu'on rebranche les courants et que vous vous rendiez compte que vous êtes en fait la personne qui est assise à côté de vous depuis une demi-heure, on va prendre quelques questions. Une ou deux.
Non mais fais-le tout de suite le temps qu'il a un micro.
Pendant que vous cherchez qui va sortir la question qui tue, je vous invite quand même à aller jouer au jeu Californium, qui sont des mondes imbriqués et qui font des tas de références au monde de Philip K. Dick. C'est l'espace jeu vidéo. Demain, vous avez tout l'espace. Il y a beaucoup de demandes, donc allez-y vite et tôt. Ça vaut vraiment la peine. Et c'est une exclusivité. Et puis tout à l'heure, à 21h15, le film qu'on a fait, effectivement, les mondes de Philip K. Dick sur Philip K. Dick à la salle Solaris. C'est effectivement très concret. Voilà. Si vous avez l'occasion.
Oui, en fait, j'aurais juste aimé avoir votre point de vue sur une série comme Lost, qui me paraît être un exemple de réalité enchâssée, à plusieurs niveaux d'ailleurs.
Il y a un côté ouvertement, totalement dickien dans Lost, de plein de manières différentes. Le,
On a à peu près tout. Le moment le plus, peut-être le moins bon de la série, mais qui est presque un manifeste, un côté presque pastiche, un peu au rabais par rapport à Dick, c'est la fin. C'est-à-dire que le.
Je suis pas d'accord.
Non, mais le tout dernier épisode, je parle juste en termes d'éléments, qu'on l'aime bien ou pas, après ça c'est perso. Par contre, en termes des éléments de ce qu'on retrouve à la fin, on laisse les questions en suspens, on a cette ouverture vers une église, l'église dans laquelle il va à la fin est une église syncrétique New Age californienne. On a le mélange en fait des religions tout à fait typique de ce qui se passait en Californie à ce moment-là, et on a cette montée au divin, qui reste un divin un peu de pacotille, voulu comme étant factice, et le fait, cette espèce de porte de sortie qui permet d'entretenir sur une base, qui a l'air d'être une base science-fictionnelle, des effets fantastiques, qui eux-mêmes au fur et à mesure sont expliqués comme résultant d'une structure à peu près cohérente, qui s'appuie sur un contenu vraiment science-fictionnel, avec une manière de réussir à finir la série en ayant une remontée au divin, là on a un vrai pastiche d'une structure dickienne. Après, je vais pas vraiment entrer dans les détails, les impératifs d'écriture d'une série, etc., de caractérisation des personnages, sont tellement différents que même si on sent cette influence-là ou autre, je vais avoir du mal à aller plus loin dans le parallèle. Par contre, il est évident qu'il y a énormément d'éléments dickiens, et il y a notamment un épisode, si je me rappelle bien, mais il y a la même chose dans Buffy. Il y a aussi un épisode absolument incroyable, mais il faut le dire, Buffy, il y a des épisodes merveilleux. Si vous n'avez pas vu Les Gentlemen version 3, vous avez raté un des meilleurs moyens-métrages fantastiques qu'on ait fait. Enfin, c'est... Et il y a un épisode de Buffy absolument extraordinaire, et il y en a un aussi dans un hôpital psychiatrique dans Lost, où on a un épisode normal avec juste des plans de coupe avec des personnes dans un hôpital psychiatrique. Et l'épisode se finit où on se demande en fait si l'ensemble de la série n'est pas en fait le délire d'un des personnages qui est enfermé. Ils nous font pareil dans Buffy, où on a effectivement en plus le démon qui joue avec en lui expliquant que non, il faut qu'elle arrête de résister au fait d'être sacrifiée parce qu'elle enferme elle et ses amis dans un monde subjectif qui n'existe pas. Et l'épisode se finit sur Buffy dans un hôpital psychiatrique, de la même manière dont je crois que c'est le... Je sais plus quel personnage est de l'hôpital psychiatrique dans Lost.
Hugo.
Voilà. Et c'est en ces moments d'enchâssement-là où là, oui, typiquement, on est dans un procédé totalement dickien, oui.
Ah, une main se lève là-bas. Et là aussi.
Bon, c'est un peu différent, mais je pense qu'il y a... Bon, d'abord, je voulais juste dire que ça serait bien de rendre hommage à Borges, parce que c'est quand même un des premiers qui a parlé de ce genre de choses. Dans l'idée qu'on est dans, on croit vivre dans une réalité, mais en fait on est dans le rêve d'un autre. Et je voulais aussi faire une référence à un autre film qui est lui-même soumis à diverses influences, c'est L'Antre de la folie, The Math Madness de Carpenter, parce que bon, bien sûr il y a la référence à King et à Lovecraft, mais il y a quand même cette idée d'univers virtuel aussi très clairement, d'enchâssement de monde, etc. Bon, quand le personnage se retrouve à la fin par exemple dans la salle de cinéma où on passe le film qu'on vient de voir, etc., etc. Donc ça aussi c'est un exemple dans une autre... Voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez.
Je suis d'accord.
Moi aussi.
Une fois, j'entends que les gens sur Chaillol sont un peu moins à l'heure que nous, ce qui est normal. Nous sommes beaucoup plus sérieux qu'eux. Est-ce qu'on a... On va s'accorder 5 minutes de plus éventuellement si quelqu'un a une toute dernière question. Même deux.
Même zéro.
Ou même aucune. Eh bien, merci beaucoup. Passez une très bonne soirée.
Vous n'avez pas eu là-bas, en fait. Il y avait quelqu'un qui avait levé... Voilà,
ah,
voilà,
si,
voilà.
Pardon.
Ouais,
ouais.
Mais moi, je vois plus rien. Alors c'était juste pour revenir par rapport à... Bonsoir déjà, pardon. C'était pour revenir par rapport à Minority Report, où on a dit que... Bon alors c'est une théorie qui vient pas de moi, hein, que j'ai trouvée sur internet. En fait on a dit que c'était pas très dickien et que la fin était naïve, tout se finissait bien, tatati tatata. Au milieu du film, Tom Cruise il va dans une espèce de prison, où le gardien lui explique que les gens qui sont dans cette prison vivent... une autre réalité que... Enfin, son espèce enfermée dans un espèce de rêve qui s'arrête jamais. À partir du moment où Tom Cruise est dans la prison, le film finit bien, tout commence à s'enchaîner de manière magnifique et super bien. Et du coup, c'est vrai que c'est pas trop suggéré dans le film, mais selon moi, on a l'indice qui fait que finalement, ça finit très très mal. L'autre, il est en prison, le méchant a gagné, tout va très bien. Et donc, je sais pas si vous aviez cette clé de lecture ou pas du tout.
Parce que... Il y a justement... Bah, alors... Oui et non, c'est-à-dire que c'est un film hollywoodien et effectivement la fin a été critiquée à juste titre parce que tout finit bien quelque part. Ce qui est intéressant, c'est que les précognitifs
dans les romans de Dick et dans le film aussi, eux aussi ont des réalités enchâssées quelque part, parce que ce qu'ils voient, là en l'occurrence Minority Report, c'est la réalité en quelque sorte vécue par d'autres à des moments divers. Donc la logique de la précognition où on pense par rapport à d'autres fait partie du même mouvement. Et il y a quelque chose qui dans Minority Report en revanche est très dickien, c'est l'anticipation des délits, c'est-à-dire que cette logique-là donc de rupture dans le temps est quelque chose qui effectivement pour le coup est assez dickien. Et l'autre chose qui est très dickienne aussi, et qu'on retrouve dans quelques nouvelles comme Service avant achat et d'autres, c'est cette logique de la publicité qui entre dans nos cerveaux littéralement, qui s'adresse aux yeux de Tom Cruise à un moment donné. Donc en fait, Minority Report est un film qui, dans son scénario et dans sa fin, effectivement, peut être critiqué et peut être mais en même temps c'est pas parce que c'est dickien que c'est formidable hein. C'est pas une garantie de réussite. En revanche, il y a plein de petits détails qui ont été pris dans des nouvelles et pas simplement dans Rapport minoritaire, dans la nouvelle en fait, donc d'où est issu le scénario général. Bon, mais comme toujours, c'est une fabrication quoi qu'il en soit, voilà.
Et techniquement, ce type d'interprétation, c'est-à-dire une interprétation qui est parfaitement logique, même si on n'a pas d'indice dans le film, ça s'appelle une lecture paranoïaque. Et dans le cas d'un récit dickien, ça justifie parfaitement.
Par contre, il n'y a pas... comme je disais tout à l'heure, c'est plutôt un thriller quand même, avec finalement un aspect que je pourrais presque taxer de fantastique, à savoir la prémonition. Mais il n'y a pas la fin ouverte et l'indétermination qu'il y a généralement chez Dick et que l'on trouve par exemple dans Existence... Minority Report est beaucoup plus carré finalement.
Et d'ailleurs dans Total Recall, la nouvelle d'origine de Total Recall finit de manière complètement folle, où on ne sait plus où on est, où effectivement on se rend compte effectivement que quand il était Quell, lorsqu'il était enfant, aurait réellement sauvé le monde en fait. Et ça se retourne sans cesse, c'est-à-dire que dans la nouvelle d'origine, alors que la fin de Total Recall, c'est quand même il sauve vraiment le monde, il n'y a pas de souci et tout va bien, et il n'y a aucune logique d'emboîtement et d'incertitude restant ouverte. Ça finit comme une pub quelque part et non pas comme un récit ouvert. Voilà.
Et il nous faut malheureusement, nous sommes esclaves d'un temps linéaire qui nous impose d'arrêter maintenant pour faire d'autres choses extrêmement intéressantes. Bonne soirée à tous.